sur franceinter.fr et lemove.fr.
France Inter, la voix est libre.
Et c'est l'heure de la Bastille, j'y suis avec Daniel Mermet et son répondeur.
Bonjour, je suis en colère contre cette masse populaire qui défile de République en Nation et qui n'arrive pas à unir une gauche environnementale et sociale. Cette gauche qui oublie l'essentiel, c'est-à-dire le contenu, par exemple, dans Le Monde diplomatique de septembre, sous la plume de Serge Halimi, stratégie pour une reconquête. Impossible de résumer sur les ondes de l'article. Sachez seulement qu'il donne des pistes très sérieuses pour engager une lutte contre ce qu'il nomme l'essentiel, la fin des paradis fiscaux, l'annulation de la dette, la mise au pas des banques, les objectifs d'attaque à ses débuts, quoi. Et tant pis si nous gênons les partis politiques et les syndicats. Connaissez-vous l'essentiel du contenu du discours de David Rockefeller à la Commission trilatérale de juin ? Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time Magazine et aux autres grandes publications dont les dirigeants ont assisté à nos réunions et ont respecté leurs promesses de discrétion pendant presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer notre plan d'action pour le monde si nous avions été sous la lumière des projecteurs pendant toutes ces années. Mais maintenant, le monde est plus sophistiqué, mieux préparé à la marche vers un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est sûrement préférable à l'autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés. Voilà, il est temps de faire autre chose. Alors, est-ce que ma colère va être contagieuse ?
Pour rebondir à l'émission de M. Lordon, j'ai vu Marine Le Pen sur France 2 chez Pujadas, et effectivement, eh bien, elle a tout piqué sur la sortie de l'euro à Marine Lordon. Voilà, affirmatif. Je sais pas, Lordon pourra peut-être lui envoyer une note d'honoraire, de droit d'auteur, peut-être. Voilà, ciao.
À tous les ANG de Moulins et des environs, contre les fermetures injustifiées de classes dans nos écoles de l'Allier, nous manifesterons demain, mercredi 16 avril à 14h à la préfecture. On a besoin de vous tous pour soutenir notre action. Isabelle Darfeuil.
Salut les AMG de la région grenobloise. Mercredi 16 avril à 19h à Mélan, au restaurant bio La Balade des Joyeux Marmitons, nous allons débattre autour du film d'Olivier Servet qui s'intitule Parti de campagne. Le thème sera les élections, guerre des idées ou guerre des partis. Rendez-vous mercredi 16 avril, Philippe de Mélan.
Marie-Paul de Villejuif. En bas de mon HLM, il y a un groupe social qui s'appelle Groupe Accueil Solidarité. Chassé par la droite en 2002, notre maire communiste les a bien accueillis. Cette assoce aide les réfugiés politiques. 93% sont refusés par le pays des droits de l'homme. Elle subventionne une douzaine de logements, les aide à remplir leurs papiers. Que va devenir cette assoce ? Notre ville est passée à l'UMP maintenant. Et ça, c'est juste un microcosme de notre ville. Notre maire voulait 40% de logements sociaux. Moi, je trouvais ça très bien pour les jeunes. Et tous les vendeurs à la sauvette devant les trois stations de notre métro, la plupart du Bangladesh ou du Sri Lanka, que vont-ils devenir ? Mais on va avoir des caméras de surveillance, une police municipale. À Aubagne, le maire communiste, Daniel Fontaine, qui avait réussi à instaurer le service de transport gratuit, éjecté. La vie est courte, elle passe comme un éclair. Mais il y en a qui se lèvent le matin en se disant « Qui sait que je vais bien pouvoir faire chier ?» Au revoir, Marie-Paul, je suis triste. Ciao.
Oui, bonjour, c'est Michel de Haute-Savoie. Je voulais interpeller Daniel Mermet. Ne penses-tu pas que c'est un peu trop facile de nous donner la liste des morts, des accidents, des tueries, des massacres après coup ? Que faisais-tu ce moment-là ? Pourquoi n'as-tu pas, alerté un petit peu tout le monde ? C'est trop facile de venir après coup, dire « on n'était pas là, on n'a pas entendu ». 10 ans après, nous dire « voilà, il y a eu une catastrophe, c'est affolant, il y a eu des morts, c'est affolant, c'est extraordinaire. On pleure, oui, on pleure, oui, on pleure. Mais pourquoi tu ne nous as pas fait pleurer, tu ne nous as pas fait réagir au moment où, ça, où c'est arrivé ?» Salut à tout le monde, bonne journée, au revoir.
Eh ben non. On n'arrive pas après la bataille. On était ici il y a exactement 20 ans. J'ai eu l'occasion de le dire assez souvent dans nos émissions et nos reportages. Là-bas, si j'y suis, nous étions là, au Rwanda, en mai 1994, il y a exactement 20 ans. Nous avons été les premiers, avec un collègue de RFI, à découvrir le charnier de Nyarubuye. Donc nous n'arrivons pas après. Et d'ailleurs, nous sommes à quelques pas de cet endroit aujourd'hui. On va retrouver des gens qu'on avait rencontrés à l'époque, qui sont devenus pour la plupart des amis. Tout à l'heure, nous étions à Kibongo. Kibongo, aujourd'hui, c'était une journée de commémoration. On se souvient des massacres, on réfléchit, on se recueille. Et il y avait une grand-messe ce matin à Kibongo, et ça nous a fait penser au génie du catholicisme qui a une part de responsabilité considérable dans l'histoire du Rwanda et dans la généalogie de ce génocide, mais qui reprend la main et qui, avec une grande cérémonie ce matin, des prières et des chants, veut tourner la page et fait tourner la page. On en parlera à notre tour. Aujourd'hui, on continue avec le cauchemar des années 80. C'est un autre cauchemar, celui-là. C'est le nôtre, en France, celui de ces années 80. On va retrouver Serge Halimi, Frédéric Lordon et François Cusset, l'auteur du bouquin « Le cauchemar des années 80 », afin que vous puissiez jouer au jeu de cette erreur. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé entre ces années 80 et aujourd'hui? Et en tout cas, vous allez voir que, si vous aviez oublié, beaucoup de choses d'aujourd'hui proviennent de ces années et des choix politiques qui ont été faits à cette époque. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, ici Maxime. Je vous donne des nouvelles fraîches de la coopérative occupée par le SAT et les journaliers de Somonté. Depuis quelques mois, ils étaient difficilement joignables. Il y a eu des difficultés au sein du lieu entre les personnes. Depuis le mois de janvier, ils réoccupent à nouveau la ferme de 400 hectares à 55 km de Cordoba à l'ouest. Pour avoir des nouvelles fraîches de ce qui se passe chez eux, ils sont sur Facebook. Vous pouvez aller sur le site, vous tapez Somonte, S-O-M-O-N-T-E, Jornalero, J-O-R-N-A-L-E-R-O, Somonte Jornalero, et vous aurez des nouvelles fraîches un petit peu de ce qui se passe. C'était Maxime, au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis, bonjour à tous les auditeurs de France Inter. Depuis 2002, l'euro a eu le temps de faire la preuve de sa nocivité. La zone euro doit-elle être dissoute? Tous les AMG, les habitants d'Aubagne et du Pays de l'Étoile, sont invités jeudi 17 avril à 19h30 pour débattre avec René Toboul sur l'Europe et la monnaie unique. Les réunions du repère d'Aubagne se tiennent tous les troisièmes jeudis de chaque mois au restaurant Le Borsalino, 3 boulevard Jean Jaurès à Aubagne. A très bientôt pour partager et faire entendre vos idées. Salut.
Oui, bonjour, Bertrand de Saint-Brieuc. J'ai concupiscence. Pas mal aussi.
Avec votre DJ à la sono.
Bonjour, il paraît, mesdames et messieurs, qu'il n'y aura plus de show en l'an 2000.
Le 5 juin 1983, Yannick Noah remporte le tournoi de Roland-Garros.
Michel Platini en est à son 35e but en équipe de France.
4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+.
Jusqu'où ira Madame Thatcher? Qu'est-ce qui pourra bien arrêter son triomphe insolent?
10 000 personnes intoxiquées à Bhopal, dans le centre de l'Inde.
J'ai voté Mitterrand sans regret, sincèrement.
Et tu danses avec lui.
Dans cet univers musical. Attention, c'est à vous, super.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Années 80, retour en arrière.
Flight number 2.
La France franchit la frontière qui sépare la nuit de la lumière. Ainsi s'exprime Jack Lang le 10 mai à la Bastille, sous la pluie, où le peuple s'écrie Mitterrand du soleil. 10 mai 1981, François Mitterrand, élu 21e président de la République, la bourse chute de 20%, les yacht people serrent les fesses, c'est l'année de Imagine. Le 21 mai, Mitterrand, la rose et le panthéon. majorité absolue pour les socialistes, quatre communistes entre au gouvernement Monroy, vote de la loi sur les nationalisations, la peine de mort est abolie le 19 septembre contre l'avis de 62% des Français, le SMIC passe à 2900 francs, les allocations familiales augmentent de 25%, les allocations logement de 50%, le minimum vieillesse passe à 20%, mais dit à la main qu'en 1982, la mondialisation est à l'économie ce que la pomme est à la gravitation universelle. Puis, en 1983, Laurence Fabius déclare « La dénonciation systématique du profit est arrangée au magasin des accessoires. » Beaucoup des idées et des acteurs apparus dans ces années-là occupent toujours largement la scène. Nous vivons toujours sous la soumission à un ordre économique qui n'a rien d'inéluctable. Pour prendre aujourd'hui toute la mesure de notre marge de manœuvre, il faut revenir sur les années du grand renoncement. Avec François Cusset, enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris et auteur de la décennie « Le cauchemar des années 80 », avec Serge Halimi, journaliste au Monde diplomatique, auteur du « Grand bond en arrière », et Frédéric Lordon, économiste et chercheur, auteur de « La vertu sauvera le monde », c'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis, années 80, retour en arrière.
Décembre 1981.
Bon là, il y a 9 ou 10 bateaux. C'est impossible pour un boat people, pour un bateau de Vietnamien de passer. C'est impossible, il va se faire attaquer par ces gens qui sont des pêcheurs mais qui sont aussi des pirates. Et il y a 10 000 bateaux comme ça entre l'île de Kra et la côte vers Songkla où nous devons aller. Évidemment, ils se dirigent vers quoi? Vers la démocratie. Ça, c'est la démocratie. Ce sont les pirates, représentants des pays démocratiques. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On peut être présent. C'est-à-dire que des bateaux de guerre qui font rien, qui tournent en rond, qui se posent des problèmes métaphysiques en France, soient présents ici. Et en attendant, puisque ça ne se fait pas, il y a des médecins, parce que c'est leur travail, et il y a des journalistes. C'est ça, parce que la démocratie, ça se mérite aussi. Il faut qu'on sache qu'on ne peut pas la défendre en France simplement en mettant sa tête sous le sable. Ça, ça ne durera pas.
Alors tout le monde a reconnu évidemment Bernard Kouchner, qui est la figure des droits de l'homme. Les années 80, c'est les années des droits de l'homme.
L'opération lancée par Kouchner, un bateau pour le Vietnam, donc là effectivement il en parle en 80, puisqu'elle dure plusieurs années, mais elle est lancée en 79, et elle aussi inaugurale de la décennie et de la nouvelle idéologie qui se met en place. C'est très intéressant les discours qu'on entend de Kouchner et d'autres autour de cette opération. D'abord, il y a le discours de l'urgence, qui effectivement est réel, il y a une urgence humanitaire absolue, mais qui, entonné par certains comme André Glucksmann ou Bernard-Henri Lévy à l'époque, signifie l'inutilité totale d'une analyse politique de la situation et le fait qu'il y a urgence médicale. Donc l'idée que l'analyse critique ou politique est invalidée par l'urgence médicale, vous voyez ce que je veux dire, ça va nous durer 20 ou 30 ans, on est encore dedans. Et puis surtout, il y a l'idée que là énonce assez clairement Bernard Kouchner, qu'avec l'élan humanitaire, on est au-delà de la politique, on est au-delà des polarités politiques. L'image la plus emblématique de cette opération, c'est en 79, une conférence de presse à l'Élysée pour lancer l'opération, où on voit Raymond Aron et Jean-Paul Sartre se serrer la main. Ils ne s'étaient pas revus depuis les années 30. Donc les deux ennemis idéologiques absolus sont d'accord, sont ensemble pour sauver les boat people vietnamiens. Donc le discours derrière, c'est « on est au-delà de la politique ». C'est évidemment faux. Enfin, l'un des grands arguments, l'une des grandes idéologies les plus pernicieuses de la décennie, c'est qu'il y a un au-delà de la politique, alors qu'on est encore complètement dedans. J'en veux pour preuve le fait que Médecins Sans Frontières va donner naissance en 84, beaucoup plus discrètement, à un drôle d'organisme qui s'appelle Liberté Sans Frontières, et dont le but idéologique, mais vraiment avoué cette fois-ci, est de dire « Liberté sans frontières ne favorisera et n'aidera que les pays qui vont dans le sens du libre-marché, lequel est le seul moyen de développer des économies viables qui feraient qu'un jour l'aide humanitaire ne sera plus nécessaire. » Donc, il y a là un lien entre l'élan humanitaire soi-disant apolitique et une lecture complètement idéologique de la situation, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est en pleine guerre froide, hein, enfin on est encore assez loin de la chute du communisme. Donc derrière voilà, l'élan purement humain, il y a à mon avis une lecture politique à faire de cette affaire.
C'est à chaque enfant qui tombe, qui meurt loin des yeux de l'Occident.
Notre ciel devient plus sombre et notre avenir.
Sur cette terre de sécheresse, ne fleurissent que les tombes. Malgré toutes nos richesses, leur soleil nous fait de l'ombre.
Mais alors, j'ai vu que vous faites partie d'une cercle ou fondation Saint-Simon. Bon, mais ça paraît curieux qu'un libéral soit sous le pavillon d'un homme.
Mais duquel ?
C'est Saint-Simon le.
Ah ben non, écoutez, cette petite fondation qui allie des industriels, des journalistes et des intellectuels, cherchait un nom. Et Emmanuel Leroy à la Durie a dit au fond, on va prendre Saint-Simon, comme ça personne ne saura lequel.
Moi, j'ai été témoin de cette séance.
Vous étiez là.
Où l'on a décidé le nom. Et le roi Ladurie, qui est un esprit piquant, a satisfait tout le monde lorsqu'il a trouvé l'ambiguïté. Et je puis témoigner que, de ce que vient de dire Alain Minc, que Saint-Simon, ce n'est pas le vrai nom. Le vrai nom, c'est l'ambiguïté. Et en prenant le nom de Saint-Simon, on a voulu simplement traduire l'ambiguïté fondamentale.
Voilà, on a dit ça en termes un peu plus chic.
Alors ça, c'est le 3 août 1984. Et c'est, on salue la création de la Fondation Saint-Simon, qui, pour ceux qui ne seraient pas nés du tout à cette époque-là, a joué un rôle important.
Kouchner, comme le disait François Cussès, c'est l'amorce du mouvement de dépolitisation. Mais d'une certaine manière, c'est également un effet de cette nature que va produire la Fondation Saint-Simon et qui est le processus de la grande indifférenciation droite-gauche. La politique n'a plus droit de cité dans cette affaire, vous comprenez ? S'ouvre l'époque des raisonnables. Et c'est cette indifférenciation droite-gauche qui va donner lieu à ce qu'on appellera plus tard, d'un terme que j'ai jamais beaucoup aimé, mais qu'on va retenir par commodité de langage, la pensée unique. Alors la pensée unique, c'est celle qui nous dit que la bonne organisation des marchés, c'est flexibiliser, déréglementer, que la concurrence est la meilleure des choses, que la finance est bénéfique, que l'État est obèse, importun, qu'il a les doigts carrés, qu'il ne faut surtout pas qu'il se mêle de l'activité économique, etc., etc. Toutes choses qui sont intimement partagées par les experts des deux bords, les deux faux ennemis, la gauche modérée et la droite intelligente, à moins que ce ne soit l'inverse, j'ai jamais su. Eh bien, c'est exactement ça le projet de la Fondation Saint-Simon.
Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Frédéric Lordon, sur cette distinction ou cette indistinction entre droite et gauche. Lorsqu'on interroge Alain Minc sur justement sa prétention à être de gauche, qui peut paraître étonnante au vu de ce qu'il dit par ailleurs, il explique dans une autre émission d'Apostrophe, je le cite, « J'essaye de faire une distinction entre un libéral de gauche et un libéral de droite. La distinction... »
Le libéral de droite croit que le marché est le meilleur moyen d'obtenir un optimum économique, mais qu'il faut faire en sorte de maintenir un nombre de stabilisateurs pour que la société ne bouge pas trop, même si on atteint l'optimum économique.
Le libéral de gauche, donc moi,
croit que le marché, outre un nombre de vertus économiques, peut être un moyen assez brutal de changer la société, et que de ce point de vue, il faut le laisser jouer à plein.
C'est une citation qui est très éclairante, parce qu'elle indique en quelque sorte que le libéral de gauche, c'est un libéral de droite, la brutalité en plus.
Glorifie la loi du plus fort.
La Fondation Saint-Simon publie des notes et documents à partir de ses séminaires et elle édite des ouvrages de recherche chez Fayard, trois titres parus en 1985, « Terrorisme et démocratie », « Le phénomène corporatiste », « La forteresse enseignante ».
Oui. Donc effectivement, cette fondation est très marginale quand elle se crée en 82, et puis elle se saborde, se sacrifie, met fin à ses fonctions en 99, je crois, c'est ça, avec l'idée explicite que la mission est accomplie. Donc elle est absolument marginale en 82, elle n'a plus rien à faire en 99, puisque ses idées sont devenues, effectivement, ce qu'on appelle à l'époque la pensée unique, mais en tout cas la pensée dominante.
Évidemment, il ne faut pas prendre au pied de la lettre la justification alléguée par Pierre Rosanvallon, selon laquelle la fondation aurait achevé son œuvre. Pas du tout. La mort de la Fondation Saint-Simon a précisément à voir avec le retour du peuple, qui s'est opéré quand ? En 1995. Et Pierre Rosanvallon, qui est assez subtil comme analyste de la société française malgré tout, a très bien perçu que les vents là commençaient à tourner un peu et qu'il était temps que la Fondation Saint-Simon disparaisse parce qu'elle n'allait pas tarder à se rendre insupportable. Et ça, de ce point de vue, la manœuvre a été extrêmement réussie. Et donc, tout changer pour que rien ne change, la réincarnation comme stratégie de la persévérance dans l'être, après la Fondation Saint-Simon, la République des idées et la nouvelle critique sociale, ripollinée à des couleurs vaguement rose pâle et qui n'a rien ni de nouveau, ni de critique, ni de social, qui est la Fondation Saint-Simon recommencée tout simplement, mais plus présentable.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. Should I stay or should I go?
Quel contre-feu contre tout ça? François Cusset.
Il y a des mouvements sociaux, pas toujours unitaires, et en plus liés à des vieux bastions syndicaux en état de désaffection croissante. Mais enfin, il y a quand même une résistance sociale, syndicale, dans la rue, à tout ça, qui a lieu. Donc il y a une résistance sociale. La résistance intellectuelle, moi, je ne la vois qu'individuelle. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, à ma connaissance et dans le travail d'archives que j'ai fait, je n'ai pas vu de mouvement d'ensemble, d'école nouvelle, de réponse organisée à des innovations telles que, justement, la création de la Fondation Saint-Simon.
Moi, j'ai le même sentiment, effectivement, celui d'un désarroi total des gens de gauche qui reçoivent un coup de marteau sur la tête, d'autant plus fort qu'ils ont été trahis par leur propre famille. Et qu'on ne cesse de leur dire « mais restez avec la famille même si elle vous a trahi, parce qu'en face, ce sera pire ».
Mais ça fait un basculement quand même très important en très peu de temps.
Ça va très vite, mais effectivement, il faut quand même, pour ne pas rester dans les dates et les bornes chronologiques, se souvenir que tout ça se met en place dans la deuxième moitié de la décennie 70. Disons que la gauche de pouvoir et pas mal d'idéologues comme Alain Minc et autres recueillent les fruits d'un changement dans les têtes et dans les agendas qui a lieu avant.
Alimi.
Oui, je crois que ça va très fort, précisément parce que ça va très vite. Il est presque impossible de tirer, en quelque sorte, sur ces politiques-là, tant elles changent à toute vitesse. Et c'est quelque chose de voulu, puisque en Nouvelle-Zélande, où à la même époque, des réformes néolibérales seront mises en œuvre, l'un des architectes de ces réformes expliquera « Une fois que le programme de réforme commence à être mis en œuvre, ne vous arrêtez qu'après l'avoir mené à terme. Le feu de vos adversaires est moins précis quand il doit viser une cible qui ne cesse de bouger. » Et c'est un peu ce qui se passe pendant ces années 80. On veut s'attaquer à une mesure de la gauche et puis aussitôt une autre est prise. Et donc, en quelque sorte, l'attaque qu'on a décidé de lancer est devenue obsolète.
Oui, je pense que c'est très important. Qu'est-ce qui a fait que la gauche a été en position dominée ? Je veux dire, la gauche intellectuelle ou la gauche idéologique, politique, vraiment, a été dominée pendant toute la période. C'est qu'elle n'avait plus l'initiative. Elle n'avait plus l'initiative doctrinale. Ça n'est plus elle qui faisait l'agenda du débat politique. Mais on est est encore dans cette période à la limite. Ça atteint son point culminant, me semble-t-il, un peu après les années 80. C'est pendant l'époque du MEDEF façon Seyère, avec la refondation sociale, qui nous tirait comme au baltrap une nouvelle idée tous les quatre matins. Et les syndicats, les partis de gauche, les économistes de gauche, d'essayer de rattraper les balles à la volée comme ils le pouvaient. Et à peine en avaient-ils fini avec une, que la suivante leur arrivait en pleine poire immédiatement.
Pour cesser d'entendre, ne serait-ce que quelques heures, les bruits de la guerre, pourquoi ne pas participer demain à la fête de la musique ? On vous en a déjà parlé. À tout seigneur, tout honneur, c'est l'instigateur de cette fête de la musique, le ministre de la Culture, Jacques Lang, qui donne les premières mesures.
Et puis cette grande fête, ce sera aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de fêter l'arrivée de l'été, cette belle saison de l'été, de montrer aussi que la France qui veut renaître économiquement, croit en elle-même, a confiance dans ses forces, a confiance dans son avenir. Et je crois que célébrer cette belle saison de l'été avec la musique, c'est un appel à la vie, un appel à la construction et à l'imagination.
Voilà, cette belle saison de l'été, sur cette belle musique printanière, c'est Jack Lang. Un événement, François Cusset, quand même, cette fête de la musique.
Un événement, enfin un événement.
C'est pas un cauchemar, ça, c'est formidable.
Ah, mais c'est fabuleux qu'il y ait effectivement rien de mieux. Alors, les esprits chagrins pourront dire, et on va presque les suivre, qu'il y a l'idée de la fête à date fixe, et là, plus profondément, ce qui se passe avec la politique languienne et avec cette espèce de génie, de lyrisme vitaliste comme ça, la France innovante, l'appel à la vie, etc. Ce qui se passe, c'est une récupération par la gauche républicaine officielle de la notion de fête qui est une notion centrale dans la subversion de la décennie précédente. La fête dans les années 70, c'est quoi ? C'est la subversion en direct de l'ordre établi. Qu'est-ce que devient la fête ? Elle devient quelque chose qui est organisé sur l'agenda républicain et qui permet, comme le dit très bien Jack Lang, de développer les pratiques culturelles, très intéressante, puisqu'on va désormais scruter à la loupe les pratiques culturelles des Français, qui fait quoi, comment va-t-on les organiser, ça crée tout un marché quand même derrière. Et puis surtout, ça développe l'innovation, la capacité d'innovation grâce à laquelle les Français vont sortir de la crise. Donc vous voyez, la fête d'instrument de subversion devient un instrument, on peut presque dire, de contrôle social. Ouais.
Beaucoup de commentaires après la signature de l'accord UDF-RPR Front National pour une liste unique au second tour des élections municipales à Dreux dimanche prochain. Quelle est la réaction du Front National qui fera donc liste commune avec l'UDF et le RPR à Dreux ? Écoutez le président de ce mouvement, Jean-Marie Le Pen.
La victoire du Front National est certaine, sa progression ne le fait pas sortir du néant, comme certains semblent le penser, mais je suis de ceux qui pensent que c'est un chiffre qui peut s'étendre largement à l'ensemble du pays si nous bénéficions de la loyauté et de l'égalité de l'information comme nos concurrents dans les élections.
Voilà, 16 septembre 1983, élection à Dreux. Et ça aussi, c'est un trait de cette décennie, François Cusset.
Oui, c'est une des dates les plus tristement importantes de la décennie, puisque c'est vraiment l'émergence d'un acteur politique nouveau. Le Front National faisait des scores aux élections grotesques jusqu'à cette municipale partielle de Dreux, qui, il faut le rappeler, a été revotée une deuxième fois après l'été à cause de problèmes au second tour au printemps, et donc conduit à cette alliance, elle aussi tristement historique, dénoncée effectivement par quelques personnalités de droite. Alors, ce qui nous rappelle quand même au passage cette chose importante. On a beaucoup dit, la gauche de pouvoir a un intérêt évident à l'émergence du Front National, puisque ça va émietter l'électorat de droite, gêner la droite et lui permettre de gagner les élections suivantes. On voit bien avec ce genre de tactique d'alliance et les débats idéologiques que ça crée à droite qu'il n'y a pas que la gauche qui a favorisé la montée du FN. Enfin, ça va de soi. Le Pen, même si ça n'est pas lui qui est candidat, va devenir effectivement le personnage médiatique central de la vie politique et télévisuelle de la décennie. Effectivement, son langage est encore assez posé. Les dérapages suivront très peu de temps après, 84, 85. C'est un tournant politique, 83.
Ouais. Serge Alimi, là-dessus ? Le jeu de la gauche avec
effectivement,
le FN.
Le jeu de la gauche, je crois que c'est une formulation même de Pierre Bérégovoy ou de François Mitterrand, je ne sais plus, qui expliquait qu'il fallait en quelque sorte doper l'extrême droite pour obliger la droite à faire alliance avec elle et la rendre ainsi inéligible. Et pendant bien des années, on aura l'impression que François Mitterrand fera du combat contre l'extrême droite, en quelque sorte, sa marque de fabrique qui permettra de justifier qu'il est resté de gauche, tout en assistant l'extrême droite afin de poser des tas de problèmes à ses adversaires Chirac, Giscard d'Estaing et Barre.
Un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale sera mis en place, sans spoliation ni monopole.
En annonçant le 15 mars 81 son intention de réunifier le système éducatif, le candidat à l'Élysée François Mitterrand se doutait-il qu'il ouvrait le dossier le plus sensible, sans doute le plus difficile du septennat. Un sondage par Image BVA montre que 71% des Français sont favorables à l'existence de l'enseignement privé.
13 octobre 1983, la guerre scolaire, François Cusset.
Oui, alors, c'est cette fameuse guerre scolaire avec la réforme voulue par Mitterrand dans ses 101 propositions et menée de main de maître par Savary. L'idée étant d'un service public unifié de l'éducation, ex-privé, dont l'éducation confessionnelle est publique, et qui va, on le sait, mobiliser les défenseurs de l'école dite privée, ou en tout cas de la liberté de choix pour l'école, jusqu'à la plus grande manifestation de toute la décennie en nombre, qui est la manifestation de juin 84. À Paris, où 1 million de défenseurs de l'école, donc encore une fois, dite libre, défilent. Au-delà de l'impact politique immédiat de cette affaire, moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est que autour de cette histoire de l'école, on est en train de redéfinir, en plein tournant libéral et de la rigueur, le sens politique de la liberté. La liberté, désormais, c'est principalement la liberté de choix. C'est-à-dire que les défenseurs de l'école privée ne sont pas nécessairement d'horribles catholiques de droite réactionnaires. On trouve même un grand nombre d'électeurs de gauche qui disent ce qu'on veut, c'est la possibilité de choisir. Et je dirais que le pendant de cette grande manif de 84 pour l'école libre, c'est une manifestation, elle aussi importante, en décembre 84, à la fin de l'année, pour la défense de Énergie, où défilent des 100 000 adolescents ne voulant pas que leur radio soit brouillée par la haute autorité de l'audiovisuel parce qu'elle a un émetteur trop puissant. Quel est leur argument ? Liberté d'écoute. On a le droit d'écouter ce qu'on veut, on a le droit de choisir son école. En profondeur, ce qui s'opère dans le paysage politique français, c'est la définition de la liberté, non plus comme ce que des conditions sociales et économiques doivent favoriser, qui était une définition, je dirais, de gauche de la liberté, mais simplement en aval comme le choix, la possibilité de choisir les produits qu'on veut acheter sur le marché, le type d'éducation qu'on veut pour ses enfants ou le type de radio qu'on veut écouter.
À bout de souffle, c'est un film d'action et d'amour. Jeff Ludjack est un être sensuel et instinctif. Parce qu'il ne se refuse rien, il vole les plus belles voitures qu'il trouve sur son chemin. Jeff n'a pas de moralité, il possède par contre un grand cœur. Fou de Monica, il va vivre avec elle un amour passionné et le vivra jusqu'au bout au mépris des lois. Vous découvrirez À bout de souffle lors de l'avant-première Énergie, qui, pour la première fois, aura lieu en périphérie le jeudi 16 juin à 20h30 au cinéma Artel, centre commercial de Créteil. À bout de souffle, un film qui marche très fort aux États-Unis et c'est une avant-première.
Energy!
Bien sûr!
Bon, nous voici en 1983. Et qu'est-ce qui se passe le 26 décembre 1983 ? Ceci.
Si vous êtes séduisant et en bonne santé, impulsif mais pas trop, plus pragmatique que cérébral, plus intuitif que cartésien, si, comme Bernard Tapie, vous pilotez vous-même votre propre avion, si vous êtes encore plus casse-cou que timoré, plus cynique qu'idéaliste, bref, si vous avez un tempérament d'aventurier, et si vous êtes capable de tout risquer pour tout gagner, alors vous êtes peut-être déjà, ou vous serez peut-être un jour, un vrai faiseur de feu. Pourquoi vous ?
Bah parce que je pars d'une situation neuve, et par conséquent, ce qu'est crise pour certains est une situation connue de moi. Moi, c'est ça, c'est cette formidable envie de... Sûrement, c'est à la fois l'ambition et l'envie de réussir, mais je crois que le véritable moteur, c'est une extraordinaire injustice que j'ai ressentie pratiquement tout au long de ma jeune carrière, où j'avais le sentiment que le véritable dirigeant n'était pas forcément celui qui avait le plus de facultés pour l'être. Celui qui se mettrait à pas aimer l'argent, à être chef d'entreprise, faut qu'il change de truc, parce que il est là pour ça, c'est son unité de mesure. C'est comme si Dru disait, moi le chronomètre, je n'en ai rien à foutre. Ça n'a pas de sens. Donc il peut pas être désintéressé. Mais c'est pas vrai de toute la population. Moi je connais un tas de gens qui sont très respectables, et pour qui gagner deux fois plus, c'est pas du tout le truc absolu. Cela dit, moi qui ai connu les deux situations, j'ai connu celle avec et j'ai connu celle sans. Je peux vous dire que je suis mieux dans celle avec.
Voilà, un document qui date de décembre 83. Tout le monde a reconnu Bernard Tapie. Et vous n'avez peut-être pas bien entendu le titre de cette émission. C'était « Les faiseurs de fric ». Et c'était réalisé par Roland Portiche et produit par Dominique Fricher, sur laquelle on reviendra. Vos commentaires.
Bah, là, ce genre d'émission, François effectivement, Cuisset. fait florès à cette époque-là. Il y en a beaucoup, il y aura Vive la crise, il y en aura pas mal. L'idée, c'est quand même assez artificiellement de produire à la télé, à la radio, un discours de propagande pour réconcilier les Français et l'argent et l'entreprise, pour les décomplexer. Mais au milieu de cet artifice-là, le bonhomme Tapie est effectivement une aubaine, parce que alors, lui, il incarne l'authenticité de ce désir-là. Il est même, il y a quelque chose de quasiment sexuel, libidinal. Il aime l'argent, il explique que c'est cet amour de l'argent qui peut faire réussir. Donc tout l'enjeu politique et idéologique est là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tenir un discours sur le libéralisme, mais de sexualiser, moi je trouve, ces questions-là, de montrer que le capitalisme fait jouir, que l'argent est désirable, donc, et finalement le discours de la réalisation, consistant à devenir quelqu'un, à se trouver une voie, est rendu sexy par cette rhétorique complètement nouvelle en France, qui est que l'argent, qui suscitait que puritanisme et mépris chez les bons Français, est désormais la chose la plus révolutionnaire qui soit, quoi. Je note aussi une chose dans l'extrait qu'on vient d'entendre qui est très étonnante. Le topo du début, c'est en gros, pour réussir, le corps, c'est quand même plus important que la raison ou l'esprit. Et finalement, le discours de l'époque, c'est aussi le sport et sans doute une préparation bien meilleure à l'esprit d'entreprise que les études. Faites du sport, vous réussirez.
Bernard Tapie, un nom bien célèbre, un homme d'affaires connu par Mons et par Vaux, qui dirige des tas de sociétés, mais avec une pêche et une forme incroyable.
Alors, comment faites-vous ?
D'abord, je suis sportif.
Plein de trucs.
Je suis sportif depuis que je suis grand comme ça.
Oui.
Ça m'a peut-être d'ailleurs donné un état d'esprit qui diffère un peu de certains de mes confrères.
Mm-hmm.
L'état d'âme, le mental, l'intelligence, tout ça, on ne peut pas l'extraire de son corps. En fait, il est le reflet de l'état de santé de son corps. Et c'est vrai qu'on est triste quand on est malade. Mm-hmm. C'est vrai qu'on est, comme vous, gai quand on est en forme. Et donc, je crois qu'il est indispensable d'être physiquement bien en forme si on veut être mentalement bien disposé.
Un énorme bravo ! Il est champion ! Il est champion !
Serge Alimi.
Au nombre de ceux qui rient aux plaisanteries de Bernard Tapie, je pense que les auditeurs ont distingué le rire de Jean-Louis Borloo, qui était sur le plateau, qui participait aux émissions de Tapie. Il faut aussi souligner que pour la gauche, qui fera de Bernard Tapie un ministre de la ville quelques années plus tard, l'image de cet entrepreneur d'extraction populaire était tout à fait idéal. Ça lui permettait de rompre un peu avec son identification, avec ce qu'on a appelé la gauche caviar. C'était le type qui était capable, en quelque sorte, d'en remontrer à un autre tribun type Jean-Marie Le Pen.
Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur.
Mais c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que
non,
vous
mais
arrivez...
Soyez poli, mais monsieur. Je peux pas être vous êtes poli sorti des bas-fonds, on le sait,
oui,
soyez poli.
Oui.
Vous avez dû apprendre à parler.
La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi.
Ah, il s'avérera, cela dit, il faut ajouter que Tapie s'avérera évidemment incontrôlable, puisqu'il a été entièrement déniché. Alors on raconte, c'est Jacques Pillan, je crois, à l'origine, qui l'a déniché pour l'Élysée, pour effectivement, dans le rôle de l'animateur médiatique de l'entreprise. Et il va évidemment aller bien au-delà de ce qu'on lui demandait, devenir le personnage gênant, celui que la bonne bourgeoisie énarco-HECienne trouve vraiment vulgaire et obscène, et dont la popularité ira croissant et empêchera qu'on puisse vraiment le mettre de côté.
Celui que j'ai présenté maintenant, c'est un leader.
Oui.
Lui aussi, il avait un idéal et depuis quelques années, sa popularité, son talent, sa notoriété a largement dépassé le cadre du monde des industriels et des chefs d'entreprise. C'est devenu une star, il n'y a pas d'autre mot. Et il chante. Bernard Tapie.
Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui. À l'aventure, tout simplement, c'est d'être un président ou bien n'importe qui et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse comme on jouait aux billes et de finir sa course le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir. Réussir sa vie, c'est prendre la main d'un enfant, le cœur d'une femme qui te sourit à l'aventure infiniment.
Serge Halimi.
Tapie, ça durera quand même un certain temps, parce qu'il faut rappeler qu'aux élections européennes de 1994, il obtiendra 12% des voix, un score à peu près comparable à celui de la liste conduite par Michel Rocard pour le Parti Socialiste.
Alors, la même année, la même productrice, Dominique Frischer, le 2 juin 1983, est présente dans une émission sur Antenne 2 qui s'intitule « L'argent, le péché des Français ». Là, c'est très clair. Le titre de la collection de la série d'émissions, c'est « Aujourd'hui la vie ». Donc, « Aujourd'hui la vie », l'argent, virgule, le péché des Français. Et là, sur le plateau, on rencontre Dominique Frischer, qui est sociopsychologue.
Bonjour à tous. Je ne sais pas combien vous gagnez, mais si je vous le demandais, il y a peu de chances que vous ne me le disiez. Nous avons avec nous sur ce plateau aujourd'hui Dominique Frischer, qui vient de publier chez Belfond Les Faiseurs d'Argent. Vous, quel jugement vous portez sur ce comportement un petit peu particulier des Français?
Mais je crois que c'est quelque chose d'historique. Il y a le plan psychanalytique, il y a aussi un plan socio-historique. Je veux dire qu'en France, il y a eu un moment où l'argent était donné. C'était l'argent des nobles et on ne parlait pas d'argent. Et quand il y a eu la révolution et le renversement des systèmes et des classes au pouvoir, les bourgeois qui ont commencé à faire de l'argent ont été traités de parvenus. Et finalement, on est resté au XXe siècle finissant avec le même code de définition sociale. Et moi, dans ce livre, j'ai voulu casser quelque chose qui était justement ce rapport à la culpabilité à l'égard de l'argent. C'est-à-dire que je suis partie du principe que les gens qui faisaient de l'argent avaient nécessairement un talent. Que ce talent, il était la résultante d'un certain nombre de qualités, qu'il fallait mettre ces qualités en évidence, et que c'était donc prendre le mot parvenu dans un tout autre sens et dans un tout autre contexte, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont partis de rien, qui ont eu une idée, qui ont fait des efforts, et qui sont parvenus à réussir et à couvrir leurs objectifs. Il faut prendre des risques, et ça, c'est fondamental.
Voilà, alors investissez-vous, accrochez-vous, bagarrez-vous, et puis, si possible, gagnez de l'argent. En tout cas, bon après-midi à tous, et à bientôt pour une autre émission d'Aujourd'hui la vie. Au revoir.
Survivez.
Une interprétation du mot parvenu. François Cusset, est-ce qu'il n'y a pas là l'idée de rattraper le fameux retard avec les États-Unis?
Oui, mais c'est même pas de rattraper un retard. Là, je pense que les termes employés par cette psychosociologue et par l'intervieweur prouvent que le discours sur l'argent des années 80 est peut-être le décalque exact du discours sur la sexualité des années 70. C'est-à-dire qu'en fait, on est coincé, on est inhibé, on n'est pas totalement réalisé. C'était le cas dans la sexualité à l'ancienne, à la papa, qu'il fallait absolument libérer, avec toute cette mythologie de la libération. Et là, c'est pareil avec l'argent, puisque finalement, c'est le discours du péché, de la lourdeur, de la vieillerie et de la transgression nécessaire. Il faut donc transgresser ce tabou-là. Moi, je trouve que ce discours-là, là aussi, sexualise la question, sexualise l'argent et appelle à s'en libérer. Difficile de répondre autre chose à cette psychosociologue que oui, aimons l'argent, sinon on est vraiment décoincés.
Et ça baigne dans la psycho, quand même. Les années 80, c'est les années psy.
C'est moi ce que j'appelle l'année des psy, effectivement la décennie des psychocrates, mais ils sont toujours là aujourd'hui. Le paradigme psychologique ou psychologisant explique désormais tout. Nos rapports à l'argent, nos rapports à l'entreprise, les enjeux politiques, les enjeux géostratégiques, l'histoire du monde. Tout est psychologisant. C'est quand même les années de Psycho, l'émission pionnière de Pascal Brugnaud. Alors effectivement, le psychologue est l'expert le plus écouté, surtout le psychosociologue ou le psychologue d'entreprise, puisque celui-là connaît l'âme de l'entreprise. C'est quand même important.
C'est la décennie, le cauchemar des années 80, le second volet d'une émission préparée par Renaud Lambert. Merci à François Cusset, Serge Halimi et Frédéric Lordon. À lire La décennie, le grand cauchemar des années 80, un livre de François Cusset publié aux éditions La Découverte. Quand la gauche essayait, un livre de Serge Halimi aux éditions Arléa. Fin de pension, piège à con, mirage de la démocratie actionnariale. Un livre de Frédéric Lordon aux éditions Raison d'agir. Et puis Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary de Guy Hockenheim, réédité chez Agon. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Vincent Godard et Maxime Ingrand. Cette émission a été réalisée par Franck Aderer, Guillaume Giraud et Yann Chouquet, préparée avec Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Et puis rendez-vous demain à 15h pour la suite de cette série sur les années 80. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Quel est votre rapport avec le gaz de schiste ?
Je me le demande. C'est un truc qui m'occupe à 24 heures sur 24.
À ce moment-là ?
Ouais, c'est mon boulot à moi que j'ai à plein temps, mais à part ça, tout va bien. Non, non, le point de départ, c'est que je suis arrivée en Seine-et-Marne pour y vivre de façon permanente en 2010 et que je suis passée complètement par hasard devant la plateforme de Doubs. Et que la Seine-et-Marne, je connaissais bien parce que j'y avais passé toute mon enfance, c'était la maison de ma grand-mère, et je me suis dit, c'est bizarre de faire un parking au plein milieu des champs de blé, parce que ça ressemblait vraiment à un parking. C'était un truc bétonné, enclos, avec un gardien devant. Comme un parking, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec un parking à Doubs ? Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme voiture à cet endroit-là ? Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc. Voilà, c'est tout. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ils fabriquaient un parking au milieu de la Brie.
Donc vous avez découvert que c'était pour faire des forages.
Donc là j'ai découvert que c'était pour en faire un forage. Bon, les forages, j'en avais l'habitude aussi, parce que des forages en Seine-et-Marne, il y en a toujours eu. Je me suis dit, mais d'habitude, c'est pas comme ça. Donc j'ai cherché un peu pourquoi ils n'étaient pas pareils. Et là, je suis tombée sur l'histoire des permis de Borloo. J'ai lu des trucs sur les Canadiens. Voilà. 2010, octobre 2010.
Bonjour à tous et bienvenue à la projection du film No Gazaran de Doris Butignol et Carole Mendouni. Et là, je me demandais, moi j'ai vu le film américain où un citoyen un peu comme vous apprend qu'on lui propose de l'argent pour faire un forage dans son jardin et puis il dit bon, je vais quand même aller me renseigner avant qu'on fasse le forage. Et puis il se rend compte à travers son voyage que les gens qui ont eu un forage, ils ont leur eau qui est polluée, ils ont, quand ils ouvrent le robinet, il y a du gaz qui sort du robinet.
Ils ont mal aux yeux, mal à la gorge, voilà. Ils ont leurs enfants qui sont malades et tout ça. Oui.
Ce qui est hallucinant. Oui. Mais vous, par exemple, vous avez des conséquences concrètes de ces forages ?
Mais nous, on ne peut pas en avoir pour l'instant, parce qu'en France, il n'y a pas eu de fracturation. Il n'y a eu aucune fracturation hydraulique en France. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a eu deux il y a un peu moins de 10 ans. Mais les conséquences de la fracturation hydraulique, elles ne sont pas immédiates. Elle est dangereuse sur la durée. C'est comme la cigarette.
Mais on ne peut pas imaginer une fracturation bio.
Non, on ne peut pas imaginer une fracturation bio parce que ça n'est pas... Contrairement à ce que nous avons cru, quand je dis nous, c'est les gens qui se sont opposés à la fracturation hydraulique, nous avons cru au début de notre opposition que le seul danger de la fracturation hydraulique était lié aux produits chimiques qu'on ajoutait à l'eau. D'accord ?
Et qui polluaient les nappes phréatiques.
C'est une minorité de cas. Alors c'est vrai, ça a été vrai à Dimock, c'est vrai dans un certain nombre de lieux aux États-Unis, mais ramené aux 500 000 puits, le nombre de puits qui ont pollué des nappes phréatiques est relativement faible statistiquement. D'accord ? En revanche, le risque de la fracturation hydraulique, qui lui est absolument incontournable, c'est un risque à long terme. Parce que cette fracturation hydraulique, elle libère, elle est faite pour ça, les hydrocarbures qui sont contenus dans des couches imperméables. D'accord ? Mais il se trouve que les pétroliers ne vont recueillir que 5% des hydrocarbures contenus dans ces couches imperméables. 5%.
Le reste part dans la nature ?
Les 95%, ils les laissent en dessous. Ils les laissent en dessous parce que ça n'est pas rentable. C'est-à-dire que pour que ce soit rentable, il faudrait qu'ils refassent encore une fracturation, puis encore une fracturation, puis encore une fracturation. C'est ce que raconte d'ailleurs dans le film, le type de Dimock dit, le puits d'à côté, il va être fracturé 18 fois. Bon, mais ça coûte bonbon. Je veux dire, une fracturation, ça coûte de l'argent. Donc il y a un rapport, tout, il y a un ratio à faire entre le prix de la fracturation et le prix du pétrole qu'on récupère. Or, grosso modo, les puits ne sont fracturés qu'une à deux fois. Donc, on laisse 95% en tout cas du pétrole. Mais ce pétrole, il se libère tout seul. Et il va se libérer et il va remonter avec la lenteur qu'il lui faudra dans les nappes phréatiques en rejoignant les failles géologiques qui préexistent. Et comme on ne peut pas reboucher toutes les petites failles qui ont été faites par la fracturation hydraulique, immanquablement, les hydrocarbures remonteront à la surface. Ça mettra 10 ans, 100 ans, 1000 ans, mais ça remontera. Donc, il ne peut pas y avoir de fracturation propre. Ça n'existe pas. C'est tout. C'est bête.
Oh, c'est simple, c'est clair.
C'est clair.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis retraitée, donc je milite. À temps plein.
Et alors d'ailleurs, justement, profitons-en. Si des gens veulent suivre votre travail, vous avez un site, vous avez quelque chose ?
Oui, on a un blog. Le collectif du Pays Fertois.
Collectif du Pays Fertois.
Voilà.
D'accord.
Mais il y a d'autres sites. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Scoopit et qui marche un petit peu comme un réseau social, c'est-à-dire qu'on s'y inscrit, on peut s'abonner, on peut avoir des, comme sur Twitter, des suiveurs, des followers. Et ce site a une particularité, c'est qu'il permet de faire des revues de presse. Donc tous les articles que je trouve dans la journée qui concernent les gaz et pétrole de schiste, soit en anglais, soit en français, je les mets. Et ils sont disponibles à tous les gens qui veulent les lire. Et au lieu d'aller les chercher, ils peuvent les trouver.
Ils vont sur Scoopit.
Oui, ça s'appelle Scoopit. Et mon compte, ça doit être scoopit.t/schiste.
Et enfin, si on veut en savoir plus, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller voir le film No Gazaran de Doris Butignol et Carole Mendouni. Et on vous verra dedans, Isabelle.
Oui. Alors, un tour de bouchon, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain.
Tous les dimanches,
magistral,
à 20h10,
totalement magistral.
Non.
Mais ouais, et ben moi j'assume.
Le masque et la plume.
Franchement.
Jérôme Garcin.
Non, tous les deux.
Littérature.
Tu viens de saborder le livre.
Il n'a pas lu son livre.
Cinéma.
Chacun son tour.
C'est vraiment un film magnifique.
Théâtre.
J'ai trouvé ça insupportablement naïf et bavard.
Mais attends, ça a un certain charme.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la Plume, rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Qu'est-ce qu'il y a, Daniela ?
Non, je vous trouve très méchant.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Très bel après-midi, vous écoutez France Inter et il est 16h. Les infos avec Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, le ministre de l'Intérieur a fait rectifier aujourd'hui la note interne donnée aux policiers du 6e arrondissement de Paris, note selon laquelle il devait évincer les familles roms vivant dans la rue. Bernard Cazeneuve fait donc savoir qu'aucun contrôle ne doit cibler une personne en fonction de sa nationalité réelle ou supposée. Jean-Yves Le Drian lui a dévoilé en fin de matinée son plan d'action pour lutter contre les violences sexuelles dans l'armée. Une cellule va être créée pour faire remonter l'information. Le harcèlement fera aussi partie intégrante du code de la défense, comme pour les fonctionnaires de la fonction publique. Par ailleurs, le ministre de la Défense a annoncé l'entrée des femmes chez les sous-mariniers. Une radioactivité 10 à 20 fois supérieure au fort Vaujour en banlieue parisienne a été détectée. C'est le résultat des mesures prises par l'autorité de sûreté nucléaire. Un point d'un bâtiment est concerné. Le fort Vaujour a un long passé militaire et nucléaire. Il a servi notamment de site de stockage de munitions pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être occupé par le centre d'études sur les poudres et explosifs du commissariat à l'énergie atomique. Le CEA a fermé ce centre en 1997. Les séparatistes pro-russes qui ne déposeront pas les armes seront liquidés. Déclaration de guerre aujourd'hui du numéro 2 des services spéciaux ukrainiens qui commande l'opération antiterroriste menée dans l'est de l'Ukraine contre les militants pro-russes. Donc, le général Krutov conduit actuellement une colonne de blindés en cette direction et il a affirmé que les hommes en armes non identifiés qui ont pris le contrôle de villes ou de bâtiments publics dans l'est du pays sont en fait des troupes du renseignement militaire russe. La tristement célèbre prison d'Abu Ghraib en Irak a été fermée. Le ministère de la Justice irakien a justifié aujourd'hui sa décision par des craintes dans le système de sécurité. La prison d'Abu Ghraib est en effet située dans une zone dangereuse à mi-chemin entre Bagdad et Fallujah. Fallujah qui est depuis janvier aux mains d'insurgés dont des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Elle avait été rendue célèbre cette prison par les tortures des hommes de Saddam Hussein et ensuite par les abus des soldats américains. On attend pour cet après-midi la décision du tribunal de commerce de Nanterre sur le cas de Fagor Brandt. La justice doit en effet se prononcer sur les différents projets de reprise du fabricant d'électroménagers. Un groupe algérien, Cévital, tiendrait la corde. Il prévoit la reprise des sites d'Orléans et de Vendôme. Le siège ainsi que les services après-vente, soit 1200 salariés. Et en accord avec cette proposition, les sociétés locales Variance Technologies et S20 Industries prévoient, elles, de reprendre les sites vendéens du groupe, soit 220 salariés maintenus, ce qui fait au total plus de 4 400 emplois sauvegardés sur 1800. Chez Seita, en revanche, l'avenir s'assombrit. La direction de l'entreprise a confirmé aujourd'hui la fermeture du site de Carquefou, près de Nantes. 366 emplois vont donc être supprimés. Déstigmatiser l'avortement, le planning familial va lancer une campagne d'information. Il s'agit de réaffirmer ce droit essentiel des femmes dans un contexte, selon l'association, qui est propice aux régressions. Enfin, au tournoi de tennis de Monte-Carlo, Joe Wilfried Tsonga s'est qualifié cet après-midi en 3-7 devant l'Allemand Cole Schreiber. Julien Beneteau, lui, s'est qualifié aussi pour le deuxième tour, cette fois en battant péniblement l'Autrichien Melzer, également en 3-7. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Nous enregistrons le jeu des 1000 euros aujourd'hui mardi dans l'Aude, à La Grasse, à 18h30. Et demain, mercredi, nous serons en Ariège, à Mirepoix, également à 18h30. Les sélections se font sur place à la même heure.
France Inter. La voix est libre.
Carrefour de l'Odéon, c'est avec Frédéric L'Odéon et c'est maintenant.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. La virtuosité, c'est l'expression de la joie de vivre, de l'envie de montrer ses capacités, une forme d'exubérance communicative, une vitalité qui exprime aussi parfois des tensions douloureuses. La virtuosité est une partie importante de l'art musical. Tiens, voici un des plus grands virtuoses de tous les temps, Niccolo Paganini. Il a écrit pour le violon des pièces d'une difficulté diabolique, pour preuve son premier caprice. Niccolo Paganini, premier caprice, interprété comme il se doit avec un archer rebondissant et une main gauche très sûre, par Julia Fischer. Franz Liszt a été un très grand virtuose du piano, lui, mais il faut dire que c'est Paganini qui lui a donné l'idée de revoir toute sa technique pour devenir lui aussi un maître de la virtuosité, mais sur son propre instrument. Et d'ailleurs, il s'est servi aussi des études de Paganini pour écrire des pièces très difficiles. Alors voici la campanella, donc la clochette. C'est un thème qui appartient au deuxième concerto de Paganini pour le violon. On entend une petite clochette au moment où le violon joue son thème et Francis en est emparé. Alors on peut dire le début est très tranquille, presque pépère, mais vous allez entendre que ça avance, il y a des notes répétées, puis on arrive à un déchaînement absolument prodigieux. Bref, sans Paganini, Liszt aurait été différent. Il s'est appuyé sur les partitions de son prédécesseur pour donner son propre répertoire de virtuose. Thank you.
Thank you.